En 5 minutes, ils étaient morts. À l'entrée de Niederbronn, un grand diable de hussard mit sabre au clair et se jeta au grand galop sur la route en hurlant « Assez, assez !» La masse brune l'absorba, nous le vîmes tomber, puis il disparut. Dans le bois autour de Niederbronn, nous avions de l'artillerie. Elle arrêta pour la nuit nos poursuivants. Le lendemain, on me remit la croix dans la cour de l'école. Cette cérémonie était évidemment plus touchante de prendre place à cet endroit. La troupe formée en carré était très disparate, zouaves, artilleurs, dragons démontés, et je regardais ce drapeau que la famille n'aimait pas. Ce fut alors que je décidai de rentrer chez moi. Rentrer chez soi, pour un soldat, cela s'appelle déserter dans toutes les armées du monde. Mais le soldat ne l'entend pas de cette oreille, il ne déserte pas, il rentre chez lui. Jamais cette différence entre deux termes ne fut aussi grande que cet été-là. Je ne me cherche pas d'excuses, je n'avais pas peur, je n'étais pas blessé ni malheureux. Ce n'est pas par lâcheté que j'ai fui, c'est par raison enfin, j'imagine, tout cela était absurde à la fin. J'avais tort, bien sûr, mais je ne regrette rien. Le lendemain de la cérémonie, j'ai pris des vêtements civils dans une maison abandonnée, et je suis parti seul à la pointe du jour. Les soldats dormaient dans les rues à même le sol. Les habitants avaient fui, par crainte de nous ou des Prussiens, qui sait, par longues étapes, je suis redescendu vers le sud en évitant Paris. Plusieurs fois, j'ai traversé les lignes. C'était partout le même spectacle, anarchie, effondrement. Des régiments sans chef pillaient les villages à plusieurs centaines de kilomètres du front. Les paysans regardaient froidement cette armée de fuyards. Les meilleurs soldats du monde, ceux qui avaient fait fuir l'Europe, fuyaient à leur tour. À Lure, je fus recueilli par des sœurs, qui sans poser de questions m'offrirent un lit avec des draps blancs, où je passai plusieurs jours. Dans un village de Bourgogne, je vis sur un mur, au-dessus de la tonnelle d'un cabaret, une inscription à demi effacée, « Vive l'Empereur ». Un cavalier l'avait tracé à la craie, un boc à la main, à la bouche la pipe en terre de la salle chargeant. C'était un de ces cavaliers dont Wellington disait à Waterloo qu'ils avaient des faces terribles, âprement militaires. Alors j'eus honte comme j'avais eu peur, une seule fois de toute cette guerre. En arrivant à Bourges, j'appris que j'avais été porté disparu. Les héros ne fuient pas, ils sont portés disparus. Gaston m'ouvrit vilé sans un mot, j'avais craint qu'il ne me questionnât, je me trompais. Les gens du peuple n'ont pas ces réactions-là. Gaston me cacha jusqu'à l'hiver. Je vécus dans la bibliothèque, tous volets fermés, ne sortant qu'à la nuit et seulement pour faire le tour du parc. Notre vieux serviteur m'apportait chaque jour de la nourriture et des nouvelles. Je crois que personne au village n'eut vent de notre manège, sauf peut-être la vieille près des abattoirs qui me dit longtemps après, à voix très basse, « Ah, monsieur le comte, le vieux Gaston, y prenait des risques, on dit même qu'il cachait des déserteurs. » Et dans son visage ridé qui ne conservait plus aucune trace de sa jeunesse, une lueur féroce avait passé. Au milieu des livres sombres, juché le plus clair du temps sur un tabouret de bibliothèque, j'appris Sedan, la chute de l'Empire, Napoléon à Bellevue rejetant la faute sur son peuple. Au dehors, les premières feuilles tombaient et vers 6 heures la pluie secouait les fenêtres. Je lus dans les journaux le nom étrange de Gambetta. L'ennemi descendait sur Paris où ma mère se trouvait, mais je n'étais pas trop inquiet. L'hiver commençait quand la rumeur de l'arrivée d'une troupe importante à Salbris traversa le pays. C'était l'armée de la Loire qui se repliait de Meung et Beaugency. Beaucoup d'hommes alors, la moisson achevée, prirent une arme pour rejoindre les soldats. Ils avaient brûlé leurs champs, chaussé leurs meilleures bottes et rempli d'eau-de-vie leurs gourdes en cuir, et ils partaient résolus, indifférents, comme ils étaient toujours partis. L'Alsace était loin, mais les Allemands chez eux jamais. Un matin de novembre, Gaston me présenta un cheval tout sellé et me dit simplement « À Bourges, il y a un général et des soldats, monsieur Nassenael. » Bonne route, il me regardait sans arrière-pensée. Il me tendait un cheval, il accomplissait sa tâche. Je montai en selle et repartis vers la guerre comme j'en étais revenu. Pourquoi, je n'en sais rien. Ces ressorts-là s'arrêtent et se remettent en marche d'une manière inexplicable. À Bourges, en effet, le général Crouzet était passé avant de remonter vers le nord. Il appartenait à l'armée de Tchanzy. En compagnie de quelques hommes, je le suivis à travers la Sologne qui commençait à geler. Décoré, je fus bien accueilli, titré volontaire, ayant vu le feu, j'inspirais confiance. On me donna à commander une section de ligne. Dans les je n'avais rien appris, je m'étais battu au hasard, et d'ailleurs l'armée entière tiraillait. Là, j'appris le rudiment avec mes soldats. Cet hiver fut terrible. Les paysans et les mobiles mouraient de froid sur les talus. Je n'avais jamais connu cette sensation que le corps, mordu, attaqué de toutes parts, va disparaître, ce désir du sommeil pour en finir, ni vu ses faces grises levées vers le ciel. Nous nous battîmes longuement, dans ce pays peu fait pour la guerre, où rien ne rappelait la guerre. On n'y sentait pas, comme en Alsace, cette vibration particulière des zones frontières. Les cadavres en uniforme y étaient déplacés, et nos colonnes dans le brouillard évoquaient davantage l'armée catholique et royale des guerres de Vendée que les divisions modernes du gouvernement de la défense nationale. À la vérité, à voir nos bivouacs, on pouvait redouter une armée de brigands. Et puis, malgré quelques beaux combats, ce fut la retraite à nouveau. De la forêt de Marchenoir à Blois, de Blois à Vendôme, de Vendôme au Mans, le grand-duc de Mecklembourg sur les talons.